Donc, gloire à Dieu d'avoir permis à ce que nous nous rassemblions ce soir pour pouvoir partager sa parole. Alors, nous allons donc demander à une sœur poussée par l'Esprit de faire la prière.
Amen.
Amen.
Père éternel, nous te rendons grâce, nous élevons nos voix, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment encore que tu nous permets de nous assembler pour partager ta parole afin d'être édifiés et d'être encore plus remplis de ta connaissance. Et nous demandons que lorsque nous sommes ensemble en ce moment, que ton esprit soit encore au milieu de nous et qu'il ouvre notre entendement et que vraiment l'orateur que tu auras choisi pour aujourd'hui soit rempli encore plus de ta connaissance et que ce partage puisse être fait à tous les saints qui seront ici présents et ceux qui auront à écouter ta parole. Que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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 Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Nous allons donc passer au cantique. Nous donnons la parole à l'Église pour que ceux qui ont les cantiques puissent ouvrir leur micro pour chanter à la gloire de notre Seigneur.
Amen, amen. Je vais chanter un cantique de la gloire du Seigneur Jésus.
Amen.
Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Ainsi que nos prières, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi, Jésus. Nous élevons nos cœurs, ainsi que nos prières. Nous élevons nos cœurs vers toi, car tu es saint, Jésus. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia, saint. Tu es saint, car tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi, roi des rois, alléluia, roi, tu es roi, car tu es Dieu, tu es Dieu puissant, tu es Dieu. Dieu puissant, alléluia, Dieu, tu es Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis, frères et sœurs.
Amen.
Amen.
Nous donnons la parole à la sœur Vanessa.
Amen. Je chante pour la gloire de Dieu. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, j'ai l'amour dans mon cœur. Alléluia, Jésus m'a sauvé, j'ai l'amour dans le cœur. Jésus m'a sauvé, j'ai la grâce dans le cœur. Alléluia, Jésus m'a sauvé. J'ai la joie dans le cœur. Jésus m'a sauvé. J'ai la vie en mon cœur. Alléluia. Jésus m'a sauvé. J'ai la vie dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, j'ai la joie dans mon cœur, alléluia. Jésus m'a sauvé, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, j'ai la reconnaissance dans le cœur, alléluia. Jésus m'a sauvé, j'ai la reconnaissance dans le cœur. Jésus m'a sauvé. Amen. Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Nous donnons la parole à la sœur Sephora.
Amen.
Amen.
Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Oh, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Oh, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. J'ai vu un homme qui était sur la croix. Il est mort pour me donner la vie. J'ai vu un homme qui était sur la croix. Il est mort pour me donner la vie. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Oh, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Amen, amen.
Amen.
Amen, amen.
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 Amen. Amen.
Rendons gloire à Dieu pour les cantiques. Nous allons donc passer à l'enseignement du jour. Pour cela, nous allons donner la parole au docteur Jean-Paul. Dieu a encore disposé une fois de plus pour nous conduire ce soir. Docteur, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, mon frère. J'espère que, par la grâce de Dieu, voilà, que tu te portes bien, encore en cette fin de journée. De mon côté, ce début de soir, nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur de nous accorder encore l'opportunité de nous retrouver. Salutations à chacun de vous, les sœurs et les frères. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous dans, selon sa grande bonté. Comme le frère a dit.
Amen.
Amen. Salutations à toi aussi.
Merci, merci. Donc, comme le frère a dit, nous allons travailler, du moins commencer. Voilà. Parlerons sur. Je ne sais pas si c'est un rappel, voilà, je ne me rappelle plus, mais nous allons parler sur le sujet, voir un peu de manière cachée ce que cela renvoyait. Il y a ce passage dans les Écritures selon l'apôtre Jean, dans Jean 1, verset 17.
La parole dit.
Oui.
Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Voilà. Donc, nous avons ce passage. C'est le Seigneur Jésus qui a fait la déclaration. La loi a été donnée par Moïse. Donc, Moïse, en tant que prophète médian, à travers lui, Dieu a ainsi transmis la loi à Israël. Mais quand on parle d'Israël, nous voyons clairement déjà le personnage pour parler de la dimension visible, la personne de Jacob. Vous savez très bien que selon l'histoire, c'est Jacob qui, rentrant de chez son beau père, voilà, ou encore chez son oncle, ça dépend du postulat, ayant, quand il partait, selon le fil de l'histoire, volé, entre guillemets, la bénédiction de son frère, mais qui lui était destiné, et selon le plan de Dieu, nous voyons clairement la prophétie, que Paul rappelle d'ailleurs selon Romains 9. Alors, il a donc ainsi rencontré Dieu sur son chemin. Et il y avait donc eu cette guerre, cette bataille ou ce combat entre Jacob et Jésus-Christ, Dieu lui-même, tel qu'il s'était révélé à lui. Et Jacob était sorti vainqueur. Bien sûr, il avait reçu un coup au niveau de la hanche. Et il avait donc ainsi demandé à Dieu de lui donner la révélation de son nom. Et vous savez, la révélation du nom de Dieu représente la bénédiction. Et voilà donc comment le Seigneur, ne pouvant pas à cette époque-là lui donner la révélation du nom, avait plutôt ainsi donné une prophétie. Alors il a dit que on ne t'appellera plus Jacob, maintenant on t'appellera Israël. Voilà, Israël. Et c'est ce Israël donc, fils d'Isaac. Isaac lui-même étant fils d'Abraham. Voilà. Et c'est ce Abraham lui-même qui avait aussi rencontré le même personnage, toujours le Seigneur Jésus, dans la position de Melchisédek. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 14. Nous voyons que les Écritures, Abraham avait fait une guerre. Et quand il a fait cette guerre-là, il était sorti vainqueur. Et quand il sort vainqueur de là, la parole nous révèle qu'il avait pris ainsi une partie du butin qu'il avait donné, nous reviendrons sur ce passage, qu'il avait donné ainsi donc à la personne de Jésus, selon cette position qu'il avait à cette époque-là, Melchisédek. Voilà. Et c'est ce même jour que Dieu avait donc ainsi donné la révélation de la grâce à travers le pain et le vin qu'il avait remis à Abraham. Et le même Dieu avait ainsi donné la même révélation à Abraham, le poussant ainsi donc à lui donner à lui-même la dîme du butin. Voilà que nous appelons affectueusement, selon les Écritures, la dîme d'Abraham. Voilà, donc nous voyons donc que la dîme est faisant partie des prescriptions divines, voilà, parmi les 613 ordonnances et les 10 commandements. Et Moïse en a donc ainsi, du moins Abraham, a été donc ainsi la première personne à poser cet acte pratique. Et bien sûr aussi, nous connaissons cet autre aspect quant à la circoncision que toujours Abraham avait ainsi effectué. Donc, Abraham, de ce point de vue, est celui qui a pratiqué, voilà, cette prophétie en premier lieu. Or, Dieu qui avait fait des promesses à Abraham, et qui donc lui avait donné ce qualificatif du père de la foi, le père de la foi ne voudrait pas dire que Abraham était la première personne ou le premier homme à avoir la foi en Dieu, puisque l'apôtre Paul, selon le Saint-Esprit, dans Hébreux chapitre 11, particulier verset, nous donnera là-bas la teneur de tous les hommes de foi, partant de Abel. Voilà, et Enoch, Noé et les autres. Donc Abraham est le père de la foi, parce que à travers lui, ou à partir de lui, ou c'est à lui, je voudrais dire que Dieu avait donné la prophétie qu'il fera de lui un peuple nombreux. Donc nous voyons ici que c'est à travers Abraham, dans une multiplication prophétique, que Dieu va rappeler la prophétie donnée à Noé et qu'il va aussi rappeler la prophétie dite depuis le temps d'Adam, lorsqu'il est dit « Sois fécond, multiplie, remplissez ou remplis la terre ». Donc, père de la foi, c'est cela dont le Seigneur et la parole parlaient. Voilà. Donc, si aujourd'hui, donc, le Seigneur déclare que la loi a été donnée par Moïse, c'est parce que le cadre prophétique, et du point de vue de l'image, étant déjà réuni, je voudrais dire ceci pour la compréhension de tout le monde, Dieu ayant déjà mis sur pied la nation dont il avait parlé à Abraham, alors il était donc normal que la loi qui devait donc ainsi être révélée puisse l'être comme telle. Voilà pourquoi donc Moïse va donc être celui par qui Dieu va communiquer, voilà, les termes de l'alliance entre Abraham, puisque Isaac, Jacob, Abraham, c'est la même personne. Voilà pourquoi je parle d'Abraham. Donc voilà pourquoi donc Dieu communiquera donc les termes de l'alliance à Abraham, si vous voulez, à Isaac ou encore à Jacob, qui est devenu donc Israël, donc le peuple nombreux. Mais avant que nous ne revenions sur donc ce sujet, vous comprenez très bien que nous parlerons sur voilà la question de la dîme du point de vue de la loi, et de manière plus globale, nous parlerons sur le principe des dîmes, puisque dans le travail accompli par les prédicateurs, voilà, la posture des prédicateurs est telle que, puisque nous avons en face de nous les Juifs contemporains, voilà, les Juifs d'aujourd'hui, qui se donnent, selon leur entendement, de vouloir pratiquer donc la loi des Juifs, alors nous leur démontrons que d'abord, premièrement, ils ne savent pas ce que c'est que dîme et ils n'en connaissent même pas les nombres et qu'ils ne peuvent donc pas du tout pratiquer. Voilà pourquoi toujours le prédicateur se donne la peine de dire à ces Juifs contemporains que si vous voulez pratiquer dîme, alors vous pratiquerez, je vais y arriver, la première, la troisième, celle de Lévi, celle de Aaron, celle du roi et celle de l'Éternel. Bien sûr, tout en montrant aussi qu'il y en a une autre, voilà, qui est appelée donc la dîme d'Abraham. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Donc, on les présente ainsi donc qu'en réalité, il y en a sept dîmes. Voilà, ça c'est le travail du prédicateur qui a pour but de fermer la bouche aux contradicteurs. Mais la prédication étant différente de l'enseignement, et que nous donc, aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de l'enseignement, donc de l'édification, nous n'aborderons pas le sujet de la même manière, ou encore l'objectif de parler de ce sujet n'a pas, ou la raison pour laquelle nous parlons de ce sujet n'a pas le même objectif. Donc nous allons plutôt parler pour aller dans le sens inverse. Voilà. Les païens, nous leur disons, dans la Bible, dans les Écritures, la dîme n'existe pas, mais plutôt les dîmes. Et alors nous montrons les sept types de dîmes que nous pouvons recenser. Or, aujourd'hui, nous étant dans l'enseignement, nous montrerons le principe inverse. Voilà, nous montrerons que, en réalité, dans les Écritures, il est question plutôt de la dîme et non pas des dîmes. Pourtant, nous recensons plusieurs. Donc, il va donc être question pour nous d'expliquer, voilà, et de ressortir le sens réel de chaque dîme. Et tout cela va donc nous ramener à la compréhension d'une seule et unique chose. Ce qui fait donc que nous ne parlerons plus pour ceux qui ont la compréhension de dîme au pluriel, mais plutôt nous parlerons de ça au singulier, tout simplement. Voilà. Et ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons le soutenir par la compréhension de ce passage avant que nous n'entrions dans le fil du sujet, selon Hébreux chapitre 10, la parole nous dit quelque chose. Selon Hébreux 10.
Quel verset?
Un instant, ça. Voilà. Donc, prenons même à partir du verset 5.
Non, il y a dans le studio.
La parole dit.
Oui.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Merci. Donc, à travers dans ce texte, nous voyons clairement que l'apôtre Paul, dont il est question, nous fait savoir que lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous avons au-devant de nous une révélation, nous devons savoir qu'elle a pour but, qu'elle a pour direction, qu'elle a pour chute, la personne de Jésus-Christ, et puisque c'est de lui dont il est question ici. Voilà pourquoi il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Voilà. Or, ici, Paul a évoqué les holocaustes, les sacrifices. Quand nous prenons souvent ce passage de Deutéronome, chapitre 12, là-bas vers le verset 5, nous voyons que le Seigneur avait prescrit les sacrifices, les holocaustes, les dîmes, les offrandes, les sacrifices en accomplissement de vœux, ainsi de suite. Donc, c'est un tout en réalité. Donc, cela voudrait dire que quand on parle du dîme pour le cas d'espèce, en réalité, cela renvoie à la personne de Jésus-Christ. Les dîmes, et que nous voyons dans les Écritures, ce sont des prophéties qui parlaient de la personne de Jésus. Et donc, c'est ce travail auquel donc nous allons nous atteler de faire pour donc montrer de quelle manière, du point de vue de la compréhension, les types de dîmes ou les différentes dîmes que nous observons donc, que nous voyons renvoyer à Jésus. Et cela aussi nous permettra pour chacun d'avoir une idée plus réelle, plus profonde de l'absurdité de ceux qui prétendent pratiquer ces choses. Vous savez, lorsqu'on est dans la prédication, lorsqu'on veut parler du Christ ou de l'Évangile à un non-croyant, si soi-même on n'a pas une bonne compréhension des choses dont nous parlons, il nous sera difficile de mesurer la gravité, l'ampleur ou encore de savoir comment aborder certains aspects des choses. C'est un peu ça, les frères. Donc, notre sujet aujourd'hui que nous commençons consistera donc à parler sur la prophétie derrière la dîme. Voilà. Et si nous parlons de dîme, si je posais la question, la dîme, les frères, c'est quoi la dîme? Voilà. Qui a une idée? C'est quoi la dîme?
Jésus-Christ?
Non. C'est pas dans ce sens, je pose la question. Je suis sur la terminologie elle-même. Voilà. Quand on dit dîme, si on enlève le dîme dans le sens biblique, c'est dîme, c'est quoi?
C'est la dixième partie d'un revenu ou d'autre chose.
Voilà. Puisque le mot dîme renvoie simplement à la dixième partie de quelque chose, ou encore le un dixième de quelque chose, quand on dit dîme, c'est ça. Voilà. Donc, la question qui nous intéresse sur ce mot, comme j'ai dit tantôt, que nous voyons ressortir avec la personne d'Abraham, c'est de se dire, mais pourquoi Dieu a parlé d'un dixième?
si la dîme c'est le 1 dans 10, le 1 là, ça représente quoi? Puisque c'est le 1 là qu'on donnait, non pas le reste de 9. Et pour avoir 1 dans 10, cela voudrait dire qu'en réalité, on doit segmenter le 1 en 10 pour pouvoir avoir 10 et prendre encore le 1, où on segmente le 1, voilà, en 10 et on prend le 1 dans 10. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, nous avons le 1 en 10. Donc, on prend une chose, on la découpe en 10. Et quand on la découpe en 10, on vient encore faire une différenciation pour pouvoir donc avoir finalement le 1 et le 9 qui font donc le 1 dans 10. Donc, le 1 là est différent des autres 9 qui constituent dans l'ensemble le 10. Voilà. Donc, le 10 ici, qui est composé du 1 et du 9, c'est la même chose. Mais Dieu vient avec une nuance et de manière à ce qu'il va se préoccuper particulièrement de ce 1-là et non pas du 9. Ce qui fait donc que quand Jésus lui vient par rapport à cette révélation, la parole nous fait savoir que c'est plutôt ce 1-là qui est important par rapport à ce que lui, Jésus-Christ, viendra faire. Si la dîme fait partie de la loi et que Jésus a accompli la loi, et nous voyons aussi clairement comment les Écritures l'ont dit, que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Et Jésus donc, en venant, comme Paul dit au verset 9, il a aboli ainsi la première pour en établir une seconde. Donc, pourquoi ce 1? Pourquoi ce 9? Donc, c'est ça, nous allons d'abord aller voir pour montrer l'origine, voilà, l'origine de la dîme, d'où est-ce que Dieu a puisé, tout en cachant, bien sûr, la chose elle-même. Nous allons lire le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 28.
Quel verset?
À partir du verset 14.
La parole dit: tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce.
Amen. Oui, continuons, ma soeur, continuons.
Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
C'est bon, ma soeur. Maintenant. S'il te plaît, ma soeur, c'est bon à ce niveau. Maintenant, il a parlé des pierres étincelantes. Maintenant, reviens au verset 13. Maintenant, lisons maintenant le verset 13.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé.
Merci. Voilà. Donc, nous voyons clairement ici, selon que nous avons fait lecture, et que, en réalité, ici, la parole nous parle de cet esprit que Dieu déclare avoir placé en Éden. Or, lorsque nous regardons l'histoire biblique, la révélation, nous savons, nous remarquons, nous constatons qu'en Éden, il n'y avait que trois personnages.
Voilà, c'est accepter la personne de Dieu lui-même, selon qu'il s'est manifesté. Ou si nous évoquons Dieu lui-même, nous dirons qu'il n'y avait que quatre personnages. Voilà, Dieu qui parlait en Éden, Dieu qui a créé Éden et qui a placé la, voilà, alors, la révélation des deux types de nature à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque plus tard Jésus-Christ dira un bon arbre ne porte que de bons fruits et un mauvais arbre ne porte que le mauvais fruit. Voilà, donc le fruit